Un plaisir utile. Lire, un plaisir utile. Une émission de lecture que vous propose l'association Lire. L'association Lire sur la VGK FM. Tous les samedis
de 14h, de 14h à 14h30.
Chers élèves, auditrices, auditeurs, rejoignez l'association Lire dans le merveilleux monde des mots, des idées, des images, des sons, des lumières et des sensations sur la 92.1 pour vous distraire, vous instruire, réussir et vous émanciper. La lecture, c'est plus que la télévision dans la tête.
Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. Il est toujours prêt pour tenter l'aventure avec ses bons copains. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime l'école, surtout quand elle est loin.
Le pays des âmes. Là où vivent les peaux rouges, il y avait une jeune fille qui était la plus belle de toute sa tribu. Nombreux étaient les jeunes guerriers qui lui faisaient des compliments, mais elle n'en écoutait qu'un seul, un jeune chef qu'elle aimait depuis longtemps. Leur mariage devait avoir lieu à la prochaine lune. Déjà, on préparait la fête et les fiancés ne songeaient plus qu'aux longues années de bonheur et de joie qu'ils allaient vivre lorsque, à la veille du festin des noces, la jeune fille fut prise d'un soudain malaise. Elle mourut doucement à l'aube. Le jeune homme, qui souhaitait l'épouser, ne put se consoler car le souvenir de la morte demeurait près de lui, nuit et jour, et jour et nuit. Il abandonna son sac et ses flèches, et assis, près de la tombe de sa bien-aimée, oubliant chasse et combat, rêva à son bonheur perdu, nuit et jour, jour et nuit. Enfin, après bien des nuits et des jours, il se souvint de ce que disaient les anciens de la tribu, les anciens qui prétendaient qu'il existait un chemin conduisant au pays des âmes et qu'on pouvait le retrouver si on le voulait de toutes ses forces. Le lendemain, à l'aube, il remplit sa besace de provisions car il ne savait pas combien de jours il aurait à voyager ni quel désert il traverserait. Il ne savait qu'une seule chose, s'il existait vraiment un chemin conduisant au pays des âmes, il le trouverait. Au moment de partir, il eut un instant d'hésitation car il n'avait aucune raison d'aller dans une direction plutôt que dans une autre. Mais il se rappela que les anciens avaient parlé du sud. Le pays des âmes se trouvait au sud, croyaient les anciens. Alors, s'armant de courage et plein d'espoir, il se mit en route, muni de son arc et de ses flèches et suivi de son chien. Marcha longtemps, longtemps, et le paysage était toujours le même que celui de son enfance. Les forêts, les collines, les rivières étaient semblables à celles de son pays natal. Il y avait seulement un peu moins de neige, et après des jours et des jours de marche, la neige disparut complètement. Il continua à marcher, et l'herbe et des feuilles et des fleurs comme il n'en avait jamais vu s'épanouissaient autour de lui. Dans le ciel sans nuages, les oiseaux passaient en chantant. « C'est la bonne route, » pensait-il. L'espoir de revoir bientôt sa bien-aimée emplissait de joie son cœur. Il lui semblait avoir des ailes. Bientôt, il traversa une sombre forêt, puis escalada de hautes falaises. Au sommet de la plus haute falaise, il aperçut une cabane. Devant la porte se tenait un vieillard vêtu de peau de bête et appuyé sur une canne. S'adressant au voyageur, il lui dit « Je t'attendais, je sais ce qui t'amène. » Lorsqu'elle est passée sur cette route, celle que tu cherches s'est reposée dans ma cabane. Repose-toi à ton tour, ainsi qu'elle l'a fait, et je te dirai ce que tu veux savoir. » En entendant ces mots, le jeune homme ne put contenir son impatience et demanda au vieillard de lui indiquer immédiatement le chemin qu'il devait suivre. Le vieillard étendit le bras dans la direction du sud et dit « Peux-tu voir cette vaste étendue d'eau là-bas et ces plaines immenses, vertes et bleues ? C'est le pays des âmes, mais aucun mortel ne peut y pénétrer sans être obligé de laisser son corps en gage. Si tu veux pénétrer dans le pays des âmes, abandonne donc ton corps, ton arc, tes flèches et ton chien. Je les garderai pendant ton absence. » Le jeune homme obéit aussitôt et se sentit léger comme l'air, frôlant à peine le sol. Et au fur et à mesure qu'il avançait vers les plaines immenses du pays des âmes, le parfum des fleurs et des champs et des oiseaux devenait plus doux, plus merveilleux, tandis que les bêtes sauvages venaient se frotter contre lui au lieu de fuir à son approche. Une brume rose l'entourait. La brise se faisait plus douce. Un grand silence régnait sur toute la terre. Bientôt, il s'aperçut que les arbres s'éloignaient, et il lui semblait traverser les rochers et les collines sans les toucher, car en vérité ce n'étaient pas des arbres ni des rochers ni des collines, mais seulement leurs souvenirs. Il se sentait heureux et fier. Il comprit qu'il était enfin arrivé au pays des âmes. Il poursuivit sa route, toujours plus léger, toujours plus rapide, toujours plus heureux et fier, jusqu'à ce qu'il ait atteint les bords du grand lac, au milieu duquel il y avait une grande île, vert et bleu. Sur le rivage du lac, il trouva un canoë de pierre et une pagaie. Le jeune chef sauta aussitôt dans le canoë et d'un coup de pagaie s'éloigna en direction de l'île. C'est alors qu'il aperçut, assise sur le rivage, la jeune fille qu'il avait tant désiré revoir. Dès qu'elle le vit, elle sauta dans un canoë semblable au sien. Il voulut la rejoindre, mais malheureusement, il ne put y parvenir, car entre les deux esquifs, d'énormes vagues s'élevèrent tout à coup. Les deux fiancés furent saisis de terreur à la vue des ossements humains qui gisaient au fond du lac. C'étaient les restes de ceux qui étaient morts avant eux et qui n'avaient pas pu atteindre l'île. Enfin, malgré leur frayeur, il ne leur arriva aucun malheur, car leur vie était sans tache et que le maître de la vie avait décidé de les accueillir. Ainsi, ils débarquèrent sur l'île et se promenèrent en se tenant par la main à travers des champs émaillés de fleurs. Le long des ruisseaux, d'eau claire, ne redoutant ni la soif ni la faim, ni le froid, ni la chaleur. Ils vécurent de l'air et du soleil, oubliant les morts, car il n'y avait pas de tombe sur l'île. Le jeune chef ne pensait plus à la guerre ni à la chasse. Tous deux seraient volontiers demeurés là, ensemble, heureux pour l'éternité. Cependant, le jeune chef entendit le doux murmure du vent et reconnut la voix du maître de la vie qui lui disait « Il faut que tu retournes d'où tu viens, car j'ai beaucoup de travail pour toi. Ta tribu te réclame et tu dois la conseiller pendant de nombreuses années encore. Mon messager t'attend, il te conduira jusqu'à la cabane du vieillard où tu reprendras ton corps et où tu retrouveras ton arc, tes flèches et ton chien. Il te dira ce que tu dois faire pour retrouver le chemin de ton pays. Écoute-le et prends patience. Les années passeront. Sois patient et calme. Quand le temps sera venu, tu viendras rejoindre celle que je te demande de quitter aujourd'hui, car elle est sous ma protection. Elle conservera éternellement sa jeunesse et sa beauté. » Le jeune chef obéit. Il était triste parce qu'il lui était ordonné de quitter celle qu'il aimait pour conseiller sa tribu. Il obéit et reprit la route du monde. Retrouva le vent, la neige, le froid et les hommes. Il lui fallut aussi conduire ses frères et chasser avec eux et faire la guerre avec eux. Mais quand le temps fut venu, il reprit le chemin du pays des âmes pour y retrouver celle qu'il n'avait jamais oubliée. Et le maître de la vie lui souhaita la bienvenue dans le pays des âmes. Sa bien-aimée l'attendait sur le rivage de l'île vert et bleu.
Was
Les dix frères, conte choisi et traduit par Ayam Suro. Il était une fois un roi riche et puissant, mais aucun homme n'est puissant aux yeux de Dieu. Il n'avait pas d'enfant et tout le monde le plaignait. Cependant, un jour, un porteur d'eau qui était aussi sorcier décida de lui venir en aide. Il fit préparer par le marchand d'épices un breuvage magique et le fit porter au roi. En Égypte, les marchands d'épices sont un peu des pharmaciens. Et aussitôt que la reine but le breuvage, elle tomba enceinte. Elle ne donna pas naissance à un fils, ni à deux, ni à trois, mais bien à 10 beaux et vigoureux garçons. Le tout dernier était le plus beau de tous. On voyait tout de suite qu'il était différent de ses frères à cause de sa chevelure qui était d'or et d'argent. Le roi alla trouver le porteur d'eau et lui dit « Dis-moi ce que tu désires et tu l'auras. Veux-tu une grande maison? Veux-tu des bijoux pour ta femme? Des vêtements neufs pour tes enfants? Je peux te donner tout cela et 1000 fois plus. Il te suffit de demander. » Mais le porteur répondit seulement « Je voudrais une mule pour porter mes outres. » Les années passèrent et les garçons grandirent. Naturellement, devenus des hommes, ils voulurent se marier. Le plus jeune s'appelait Hassan. Je vous l'ai dit, il était le plus beau de tous. Il était aussi le plus astucieux. Un jour, Hassan dit à ses frères « Demain matin, quand notre père viendra nous souhaiter bonjour, nous ne lui répondrons pas. Comme ça, il comprendra que nous ne sommes pas heureux. » Le lendemain, le père vint en effet leur dire bonjour et aucun ne releva la tête pour lui répondre. Inquiet, il alla voir sa femme. « Ils ne sont plus des enfants, lui expliqua-t-elle. Peut-être veulent-ils se marier ?» Le père retourna les voir. « Vous êtes 10 frères, déclara-t-il. Je veux que vous épousiez 10 sœurs. »« D'accord, dit Hassan. Donne-nous des provisions pour plusieurs jours de marche, un peu d'argent et une chamelle pour chacun d'entre nous, et nous nous mettrons en route. » Leur mère leur prépara des sacs de provisions pour la route, avec du pain frais, des dattes, de l'huile et du miel. Leur père leur remit de l'argent, et les voilà partis, chacun sur le dos de sa chamelle.
Un cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un cèdre qui veut dire Zorro.
Ils voyagèrent longtemps à travers le pays sans s'arrêter. Puis, fatigués, ils décidèrent de se reposer une nuit. C'est alors qu'ils virent la lueur d'un feu à quelque distance de là. « Ne bougez pas !» proposa Hassan à ses frères. « Je vais voir ce que c'est, je reviendrai vous le dire. » Quand il arriva auprès du feu de camp, que ses frères et lui avaient aperçu de loin, il vit 3 hommes qui se disputaient un turban. C'était un turban ensorcelé, qui rendait invisible quiconque le mettait sur sa tête. Lorsque les hommes virent Hassan, ils décidèrent de le prendre comme arbitre pour mettre fin à leur dispute. « Voilà ce que je vais faire, déclara-t-il. Je jette mon sabre en l'air et celui qui le rattrape avant qu'il ne retombe aura gagné. » Bien entendu, il jeta son sabre le plus loin qu'il put et dès que les 3 brigands se furent précipités pour s'en saisir, il revêtit lui-même le turban et devint invisible. Hassan reprit le chemin pour retrouver ses frères. Cependant, à peine avait-il fait 100 pas qu'il rencontra 40 voleurs qui partageaient leur butin. Ils avaient déjà fait 40 pas lorsque Hassan, toujours invisible, en prit une pour la faire disparaître. Au moment du partage, un des voleurs se plaignit. « Mais moi, je n'ai rien eu !»« Comment cela se fait-il » demanda le chef des voleurs. « Nous sommes 40 et nous avons divisé le trésor en 40 parts. Comptons de nouveau. » Hassan remit à sa place le tas d'or qu'il avait fait disparaître. Le chef recompta les parts et en trouva 40 de nouveau. Pourtant, au moment de les distribuer, une fois de plus, elles n'étaient que 39. Le chef sourit en lui-même et cria « Qui que tu sois, rends-toi visible et nous te ferons aucun mal. » Hassan leur apparut. Les 40 voleurs virent comme il était grand et fort et lui proposèrent de se joindre à eux. Très près d'ici, lui dit le chef, se trouve le palais de l'empereur de Chine. Il y garde ses coffres d'or et d'argent et aussi des monceaux de rubis et d'émeraudes dont tu ne peux imaginer la splendeur. En plus, il y a aussi 10 filles que l'on dit plus belles encore que tous ces trésors. 10 sœurs ? Évidemment, Hassan accepta tout de suite. Mais il avait un plan. Quand il arriva avec ses nouveaux complices au pied des murs du palais, il leur annonça « Attendez-moi ici, je vais grimper le long de ce mur et quand je serai à l'intérieur, je vous appellerai pour vous faire entrer un par un. » Il mit son turban magique sur sa tête et, invisible, escalada le mur du palais. Dès qu'il eut pénétré dans la salle du trésor, il appela un à un les 40 voleurs, mais chaque fois que l'un se présentait à lui, Hassan lui coupait la tête. Quand il eut coupé les 40 têtes, il referma la porte de la salle du trésor et se mit à chercher le harem. Il y trouva les 10 princesses endormies et fut émerveillé par leur beauté. C'est alors que son œil fut attiré par la plus jeune, qui était de loin la plus belle de toutes. Il en tomba amoureux sur le champ. Il ôta une bague qu'il portait au doigt et l'enfila sur le doigt de la jeune fille, tout doucement, sans la réveiller. Puis Hassan rejoignit ses frères, mais il ne leur dit pas un mot de toute cette aventure. De son côté, la jeune princesse fut bien surprise de se réveiller avec une bague au doigt. Elle courut la montrer à son père. Au même moment, des gardes arrivèrent en criant devant l'empereur. Ils disaient qu'ils avaient trouvé 40 têtes inconnues sur le sol de la salle du trésor, et pourtant pas la moindre pièce d'or n'avait disparu. C'était vraiment étrange. L'empereur ordonna que l'on rassemble au palais tous les étrangers que l'on trouverait dans le pays, et il leur dit « Je donnerai tout ce qu'il désire à celui qui pourra m'expliquer ce qui arrivait dans ma salle du trésor. » Bien sûr, tous défilèrent devant l'empereur, et chacun inventa une histoire. Mais aucun ne réussit à tromper le souverain, qui les fit tous chasser. À la fin, ce fut le tour d'Hassan de rencontrer l'empereur. Il raconta son histoire, comment il avait piégé les voleurs et sauvé le trésor. Quand il parla de la bague qu'il avait mise au doigt de la princesse, l'empereur de Chine comprit qu'il disait vrai. Et il lui dit « Demande ce que tu désires pour toi et pour tes frères, tout te sera accordé. » Nous sommes 10 frères et nous avons promis à notre père d'épouser 10 sœurs, lui répondit Hassan. Et moi, reprit l'empereur, j'ai 10 filles. Et il décida de donner une grande fête pour célébrer les 10 mariages le même soir. Voyant que ses frères étaient heureux, Hassan dit à l'empereur, Votre Majesté, célébrez le soir le mariage de vos 9 filles aînées, mais moi je voudrais me marier dans le royaume de mon père. C'est juste, s'exclama l'empereur. Et il ordonna à sa plus jeune fille d'offrir un des 2 bracelets qu'elle portait au poignet à Hassan pour qu'il devienne son fiancé. Elle le lui donna avec plaisir, car ce jeune homme courageux lui plaisait. Pour le mariage des 9 frères, on donna une fête extraordinaire qui dura 3 jours et 3 nuits. Ce n'est pas commun de marier 9 princesses en même temps. Le 4e jour, tous reprirent la route pour marier Hassan dans la maison de son père. Les 10 garçons et les 10 princesses voyagèrent durant de longs mois. Ils traversèrent monts et vallées, et surtout d'immenses déserts. Un jour qu'ils cherchaient à remonter de l'eau du fond d'un puits en plein milieu du désert, ils s'aperçurent que leur corde était un peu trop courte. Hassan, toujours lui, décida de descendre lui-même avec l'outre au bout de la corde pour parvenir jusqu'à l'eau. Le puits était creusé en étages, et en se tenant 2 étages plus bas, il pourrait en atteindre le fond. Ses frères l'aidèrent à descendre, mais quand il fut tout en bas, l'aîné, qui avait toujours été jaloux d'Hassan, dit aux autres « Notre père est bien vieux. Lorsqu'il apprendra que c'est grâce à Hassan que nous nous sommes mariés avec les filles de l'empereur de Chine, je suis sûr que c'est à lui qu'il décidera de léguer le trône et toutes les richesses. Croyez-moi, si nous ne nous débarrassons pas de lui tout de suite, nous n'aurons rien. Qu'en pensez-vous ? » Il réussit à convaincre ses frères et ils partirent en laissant Hassan au fond du puits.
Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais partie, le petit prince a dit
que c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Mardi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mercredi.
Hassan était resté seul dans son puits, un jour ou peut-être même deux, lorsque des bédouins arrivèrent pour faire boire leur chameau. Soudain, Hassan vit un seau à sa portée. Il s'en saisit fermement et là-haut, le bédouin sentit la corde se raidir. « Qui es-tu ? » cria-t-il. « Es-tu un homme ou un djinn ?»« Je suis un homme, » répondit la faible voix d'Hassan. « Aide-moi à sortir d'ici, je suis presque mort de faim et de fatigue. » Les bédouins aidèrent Hassan à se hisser hors du puits. En le voyant si beau, les filles chuchotèrent à l'oreille l'une de l'autre en gloussant de rire. Elles le gavèrent jour après jour de pigeons rôtis, de beurre, d'œufs de poule et lui firent je ne sais quoi encore. En tout cas, en les quittant, il avait retrouvé toute sa vigueur. Hassan reprit donc son chemin, mais bientôt, ses provisions s'épuisèrent et il eut faim et soif. Alors qu'il approchait de la ville où habitait son père, il trouva un joaillier qui travaillait tout seul dans son échoppe. « Je n'ai pas un sou en poche, » lui dit-il. « Gardez-moi auprès de vous, je vous aiderai. Vous m'apprendrez le métier et vous me nourrirez en échange de mon travail. » « Je ne vois pas de mal à cela, » répondit le joaillier. Et Hassan devint son apprenti. Bien sûr, de leur côté, ses frères avaient menti à leur père. Ils lui avaient raconté que le pauvre Hassan était tombé au fond d'un puits sur le chemin du retour et qu'ils avaient tout fait pour le sauver, sans succès. « Hassan est mort, » se lamenta le père. « Hassan est mort. Comment vivrai-je un jour de plus ?» Inconsolable, il ira pendant des semaines dans son palais comme un fou. Le voyant ainsi, son vizir eut un jour pitié de lui et le conseilla. « Allez-vous vous lamenter tout le restant de vos jours ? Regardez comme les femmes que vos fils ont ramenées sont belles. Je suis d'avis que vous épousiez la plus jeune, qui était destinée à Hassan. »« C'est une bonne idée, » répondit le roi. « Dès que les 40 jours de deuil seront finis, je l'épouserai. »
Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi. Vendredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons samedi. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons samedi. Samedi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons dimanche. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons dimanche. Dimanche matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons lundi. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons lundi.
La plus jeune fille de l'empereur de Chine savait au fond d'elle-même qu'Hassan n'était pas mort. Elle alla trouver le roi et lui dit franchement, « On chuchote au palais que vous voulez m'épouser. Rien ne l'interdit. Mais avant d'appeler le mazoun pour célébrer la noce, je veux que vous m'offriez un bracelet comme celui-ci. » Et elle lui tendit son bracelet, sachant qu'Hassan aurait conservé l'autre qui était son cadeau de fiançailles. Le vizir fit le tour des joailliers de la ville. À chacun, il demandait, « Le roi désire un deuxième bracelet exactement comme celui-ci. Peux-tu le lui faire ? Mais tous répondaient : Oh non ! Quelles mains ensorcelées ont fait cette merveille ? Ne vous fatiguez pas, hein ? Aucun joaillier de chair et d'os ne pourra l'imiter. Enfin, ce fut le jour du bijoutier chez qui Hassan travaillait. Lorsque le vizir lui posa la question, il répondit comme les autres. Mais Hassan tira son patron par la manche et lui chuchota à l'oreille. « Laisse-moi voir ce bracelet, maître. Oui, je peux le faire. En 20 jours. » En compagnie du vizir, le bijoutier alla donc trouver le roi et l'assura que lui-même pourrait fabriquer l'exacte copie du bijou en 20 jours. À la fin des 20 jours, Hassan, qui avait fait semblant de travailler, lui remit son propre bracelet. Et voilà notre joaillier en route vers le palais, rêvant à sa bonne fortune. Le pauvre bougre ne savait pas ce qui l'attendait. En voyant le bracelet d'Hassan que le joaillier prétendait avoir fabriqué lui-même, la fille de l'empereur de Chine déclara « C'est bien. Maintenant, avant mon mariage, que l'on coupe la tête de l'homme qui a fait ce bracelet. » Abasourdi, le bijoutier tomba à genoux en jurant au roi qu'il avait menti. « C'est à mon apprenti, ce fils de chien, qu'il faut couper la tête, » protesta-t-il. « C'est lui qui a fait ce bracelet. » Et c'est ainsi qu'Hassan fut à son tour amené devant le roi. « Est-ce ainsi que tu entends me récompenser ?» dit-il au souverain. « Moi qui ai réussi à copier le bijou pour que tu puisses épouser la fiancée de ton fils Hassan. » Saisi par ces paroles, le roi se pencha vers Hassan et lui répliqua tout bas. « Comment le sais-tu ? Qui es-tu ? N'as-tu pas un signe ?» continua Hassan, « par lequel tu reconnaîtrais ton fils ?» Et comme le roi restait muet, il ôta de sa tête la peau de mouton qui cachait sa chevelure d'or et d'argent. Le roi reconnut aussitôt Hassan et l'embrassa. Les noces d'Hassan et de sa promise furent célébrées le soir même.
Lire, un plaisir utile. Lire, un plaisir utile, une émission de lecture que vous propose l'association Lire sur la VGK FM tous les samedis de 14h
à 14h30.
Chers élèves, auditrices, auditeurs, rejoignez l'association Lire dans le merveilleux monde des mots, des idées, des images, des sons, des lumières et des sensations sur la 92.1 pour vous distraire, vous instruire, réussir et vous émanciper. La lecture, c'est plus que la télévision dans la tête.
Bouba, Bouba, fais bien attention.